Radio Okapi. Pascal Masereka pour le journal.
Du journal, la CENI et les chefs coutumiers viennent de convenir de vulgariser le calendrier électoral en vue des élections de l'année prochaine. C'était à l'issue d'une concertation ce lundi ici à Kinshasa. 600 cas de choléra recensés du 30 octobre au 5 novembre 2017 dans les territoires de Luisa restent maintenant au laboratoire de préciser, après analyse des résultats, si le Kasaï central est touché par cette maladie qui se propage. Il y aura aussi l'actualité de l'étranger, le sport, le dossier et l'invité. Il s'agit de l'administrateur du territoire de Mambasa, dans l'Ituri, sur l'impact de la présence massive des éleveurs Mbororo à Niangara. Madame, Messieurs, bonsoir. Rencontre ce lundi ici à Kinshasa entre la CENI et 200 chefs coutumiers de la RDC. Selon le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katitima, il s'est agi d'impliquer les chefs coutumiers dans la vulgarisation du calendrier électoral. Ils ont tous pris l'engagement de sensibiliser leurs bases respectives en vue des élections prévues l'année prochaine. Des précisions avec le président des chefs coutumiers de la RDC, Lemoy Migondefroy, et au micro de Paul Matendo.
Nous remercions sincèrement la CENI pour le fait de redynamiser le cadre de concertation entre les chefs coutumiers et la centrale électorale. Et aussi, nous suivons de très près tout ce qu'ils font. Nous écoutons les acteurs politiques qui sont positifs et d'autres non. Mais nous, le pouvoir coutumier, nous souhaitons sincèrement que tout se passe dans la paix et la sérénité et que la CENI trouve le moyen d'écouter les autres aussi, mais que nous devons aller de l'avant. Les élections auront bel et bien lieu dans ce pays. Voilà pourquoi on nous a associés afin que nous, les coutumiers, nous puissions communiquer aux chefs de chefferie à l'intérieur, aux chefs de groupement et aux chefs de village qu'il faut aller de l'avant, mais dans la paix et la sérénité.
Voilà qui nous conduit maintenant au Nord Kivu, où le calme est revenu au quartier Ndosho dans la ville de Goma après une manifestation organisée tôt le matin par des jeunes des mouvements citoyens dits les déboutistes. Ils ont érigé sur place des barricades sur la route Goma-Sake, ce qui a bloqué le trafic sur cet axe. La police nationale les a dispersés au gaz lacrymogène et rétabli la circulation. Le récit de Freddy Bikumbi.
C'est la toute première action de ce tout nouveau mouvement citoyen appelé les déboutistes en ville de Goma. La manifestation commençait aux environs de 5h du matin, a duré plus de 2h. La police a dû faire usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. D'après nos sources, au moins un d'entre eux serait interpellé et un autre blessé. Plus tard, les activités ont repris leur cours sur cet axe Goma-Sake. Tout ce qui reste, ce sont les traces des pneus brûlés et quelques pierres encore visibles sur cette route. Jérémy Choukourou, un des militants du mouvement, les déboutistes, dit que les actions vont se poursuivre jusqu'à ce que leur voix soit entendue.
Notre militant déjà arrêté, nous espérons continuer les actions toute la semaine jusqu'à ce qu'il soit libéré. Nous allons continuer les actions jusqu'à ce que les autorités comprennent nos voix, parce que nous sommes venus exprimer ce que la population est en train de parler à basse voix. Nous avons le courage de les parler à haute voix. Nous sommes venus exprimer la volonté du peuple.
Dans un communiqué rendu public ce lundi, le mouvement déboutiste met en garde la communauté internationale pour sa complicité avec le régime actuel qui accentue le malheur du peuple. Goma, Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, 2 blessés graves, dont un policier et 16 personnes interpellées. Bilan dressé ce lundi matin en Ituri par le commissaire provincial de la police nationale après les accrochages de vendredi dernier entre des étudiants de l'université de Bounia et des policiers. Ce bilan est plutôt contredit par le corps scientifique de l'UNIBOU qui dénonce l'usage disproportionné de la force contre des manifestants pacifiques. Un reportage de José Deschartes-Menga.
Le commissaire provincial de la PNC affirme qu'un policier a été tabassé par des étudiants qui lui ont fracturé une jambe. Un étudiant a perdu également deux doigts, arrachés par un lacrymogène qui a explosé dans sa main droite quand il voulait le renvoyer au policier. 9 étudiants appréhendés ont été ensuite libérés le même jour, hormis 4 manifestants. Henri Cabrenda.
Il y a un policier fracturé, copieusement tabassé par les étudiants au niveau de rond-point pique-nique. Il y a un étudiant blessé à la main droite. Ceux qui ne sont pas des étudiants que nous avons interpellés, on va les transférer au niveau du parquet.
Le corps scientifique de l'UNIBO ajoute que des ordinateurs et téléphones portables, ainsi que des ustensiles de cuisine ont été pillés par des policiers. Ils les accusent aussi d'avoir cassé des portes du home. Ces enseignants parlent d'une répression cruelle, brutale et inhumaine. L'assistant Claude Gutabo, leur porte-parole.
Condamnons vigoureusement et sans complaisance l'usage disproportionné de la force par la police nationale congolaise contre les étudiants manifestant pacifiquement ainsi que l'occupation du site universitaire par ces éléments de la PNC.
Le général Capintre reconnaît aux étudiants le droit à leurs revendications, mais il les appelle à respecter l'ordre public. Rappelons que ces étudiants protestaient contre une lettre du ministre des Affaires foncières qui attribue leurs installations à un commerçant de la place. Bounia, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
600 cas suspects de choléra ont été recensés dans la région du Kasaï du 30 octobre au 5 novembre 2017 et le territoire de Luisa figure parmi les zones concernées. Des analyses du laboratoire doivent dire si le Kasaï central est jusque-là épargné et aussi touché par la maladie qui se propage. À Kananga, une correspondance de Karine Damousseau.
Selon un communiqué du ministère de la Santé publié dimanche, de nouveaux cas suspects de choléra ont été recensés dans 72 zones de santé à travers le pays. Parmi les 7 nouvelles zones de santé touchées, 6 sont situées dans l'espace Kasaï. Le programme national d'élimination du choléra indique avoir déjà enregistré un nombre important de décès sans donner de chiffres précis. Selon cette structure, la région du Kasaï manque de structures de soins adaptées. Son coordonnateur, professeur Bompangé, a présenté un nouveau plan global de riposte contre le choléra qui, selon lui, est mis en œuvre depuis samedi. Ce plan prévoit de décentraliser la coordination nationale en dépêchant des équipes aux zones les plus touchées. Ces équipes devront mener des investigations et intervenir. D'après lui, il manque à présent des moyens pour mettre en œuvre ce plan. Pour lutter contre cette maladie, 6 tonnes d'intrants composées notamment des solutions de réhydratation ont été acheminées dimanche à Gandajika, Mweneditu et Luisa. Les 3 grands foyers apparus dans la région du Kasaï, a fait savoir le professeur Bompangé. Le ministère de la Santé veut éviter de revivre la catastrophe de Goma où une grande épidémie de choléra a coûté la vie à plus de 50 000 personnes en 1994. Kananga, Karine Damousseau, Radio Kapi.
Et puis, la ville de Kisangani n'est toujours pas complètement desservie en eau potable depuis la coupure d'électricité jeudi dernier suite à l'inondation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Les 2 groupes électrogènes prêtés à la régie des eaux n'ont pas les capacités optimales pour faire fonctionner ces pompes. Il faut donc un renforcement de l'énergie. En attendant, la régie des eaux de la province de la Tchopo n'est fournie de l'eau qu'à ses abonnés situés sur le réseau de la basse pression. C'est ce que nous explique Donatien Aliana Alipanagama.
La régie des eaux a reçu le week-end dernier 2 générateurs de secours. L'un lui prêté par la Monisco d'une puissance de 350 kVA. Ce groupe électrogène est utilisé pour les 2 prises d'eau et le refoulement au niveau de l'usine Tchopo 1. Le second groupe, en provenance de l'entreprise CFT, a une capacité de 450 kVA. Celui-ci est installé pour alimenter les pompes de l'usine Tchopo 2. Cependant, ce générateur n'a pas supporté la puissance des équipements de refoulement d'eau. Selon la régie des eaux, il faut avoir un autre générateur de 630 à 700 kVA pour être en mesure de fournir de l'eau potable sur toute la ville de Kisangani. En attendant, c'est la basse pression qui est alimentée pour desservir les communes Mangobo, Tchopo ainsi qu'une partie de la Makiso. Le programme prévoit 2 séquences en fourniture d'eau potable, la première de 8h25 à 13h25 et la seconde de 15h30 à 22h30 heure locale. Dans l'ancien Alien Ali Panagama, Kisangani, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi la dégradation de la santé de Franck Diongo. Le président du MLP, le mouvement Lumumbiste Progressiste, a des pieds enflés et ne marche plus. Son avocat affirme que l'opposant est privé ce jour-ci de visites et de soins médicaux par le directeur de la prison centrale de Makala. Maître Nico Mayengele dénonce ce qu'il qualifie de traitement inhumain de son client. Il est joint par Jeff Ngoy.
L'opposant Frank Diongo est privé de la nourriture. Hier, il a été interdit d'être visité par le président du rassemblement, Félix Tshisekedi. Et son état de santé est plus que préoccupant. Il est mourant, ses pieds ont gonflé, son ventre, il est très affaibli. Lorsque nous avons été mis au parfum de cette situation, nous avons appelé son médecin qui est arrivé à la prison et le médecin a été empêché de voir les prisonniers Frank Diongo. On a envoyé le médicament. Ces médicaments ont été confisqués par les directeurs de la prison dont les MLP dénoncent cette mort programmée par les régimes.
J'ajoute que nos efforts pour avoir la réaction du directeur de la prison centrale de Makala n'ont pas abouti. Le directeur général de la SNEL parle des perturbations dans la fourniture du courant électrique depuis jeudi dernier dans la province de la Tchopo. C'est suite à la montée des eaux du fleuve Congo. Ces variations ont augmenté du coup le niveau d'eau dans la rivière Tchopo, causant ainsi une inondation de la centrale. Jean Bosco Kayumbo est interrogé par Daniel Tambizoni.
Le jeudi dernier, nous avons connu une montée brusque des eaux de la rivière dont du fleuve Congo, qui a entraîné une montée des eaux sur l'embouchure de la rivière Tchopo et qui a brisé un mur de soutènement qui retient la porte de visite du groupe 3 de la centrale de Tchopo. Et cette montée d'eau a inondé le palier turbine de la centrale. Les eaux sont montées jusqu'à une hauteur pratiquement de 1,50 m. Grâce à l'intervention rapide des opérateurs qui étaient sur place à la centrale, on a pu rapidement maîtriser cette montée des eaux. Nous avons déjà connu ce genre d'incident dans le passé, dans les années 1997. Plus loin, en 1961, un incident identique était arrivé et les niveaux sont montés à 2,33 m. Au moment où je vous parle, depuis hier, pratiquement toute la ville de Kisangani est réalimentée en eau potable. Nous avons repris aussi l'hôpital et la morgue.
Toujours selon la SNEL, les premières estimations des dégâts matériels qui pourraient être revus à la hausse sont de $350 000. Le directeur général de la SNEL rassure que tout redeviendra normal avant la fin de cette année. Pour la suite du journal, parlons de l'inauguration ce lundi à Kinshasa du portail d'enregistrement des petites et moyennes entreprises à l'hôtel des postes de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le ministre congolais de petites et moyennes entreprises, l'un des experts en développement de PME qui a contribué à sa mise en œuvre, a indiqué que ce portail est monté à Kinshasa pour identifier les PME congolaises afin de créer une classe moyenne et donner l'accès au marché à ces entreprises. Albert Kabeya le dit à Paul Matendo.
Le sens du ministre aujourd'hui, c'est pouvoir développer la classe moyenne et de donner l'accès au marché de ces petites et moyennes entreprises au niveau des appels d'offres privés comme aussi des appels d'offres publics qui demandent des PME congolaises. Alors, c'est comme un filtre, ça permet de connaître la PME, de connaître le propriétaire de la PME, d'avoir en fait son pédigré et de s'assurer que c'est une personne digne de confiance, capable de pouvoir tenir et de remplir les conditions du marché. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais au-delà de ça, je pense que l'idée du ministre est encore beaucoup plus forte parce que le ministre est allé beaucoup plus loin, c'est de mettre en place enfin un portail sur lequel une plateforme sur laquelle les entreprises s'enregistrent et mettent en avant leurs produits, leurs services, et ce qui permet en fait aux particuliers et aux entreprises de pouvoir retrouver une entreprise par rapport à un produit, ou par rapport à une géographie, ou par rapport à un nom, tout simplement.
Et puis, au Congo central, la Fédération de l'Union pour le développement du Congo, UDECO, dénonce la profanation des tombes au cimetière de Ngadi 1 dans la commune de Matadi. C'est confiant à la presse, dans cette ville, hier, le président de ce parti politique a appelé les autorités à démolir les habitations qui sont construites sur ces sites non désaffectés. Venant Wabello est au micro de Guy Roger Nyampala.
Ce cimetière, fermé depuis à peine 10 ans, plus précisément en 2007, connaît une profanation vertigineuse au vu et aussi des autorités politico-administratives. Nous basant de l'article 206 de la loi foncière, constatant l'immobilisme de l'administration qui pourtant et couverte par les doubles privilèges du préalable et de l'exécution d'office, l'IDECO Congo Central demande aux ministres national et provincial qui ont la charge de l'urbanisme et d'habitat de régler ces conflits entre la minorité représentée par les criminels profanateurs des tombes et la majorité représentée par les victimes, parents, amis et frères des tombes profanées, de démolir tous ces édifices sans délai, sinon nous serons obligés à mobiliser tous les lésés pour revendiquer nos droits et pousser ipso facto l'administration devant ses responsabilités.
En réaction à cette préoccupation, le ministre provincial de l'urbanisme dit que cette affaire est en justice.
Actualité Afrique Monde.
En Centrafrique, un calme précaire a régné ce lundi dans les quartiers ouest de la ville de Bangui, la capitale du pays, après des violences qui ont fait au moins 7 morts et plus de 20 blessés. Ce sont les premières violences significatives depuis le début de l'année. Un fort déploiement de la mission de paix de l'ONU et des forces de sécurité intérieure était visible aux abords du PK5, un quartier musulman épicentre des violences communautaires. Le cardinal Dieudonné Zapalainga a lancé aujourd'hui un appel à la retenue et à la raison dans une vidéo publiée sur l'Internet. Le chef de l'armée zimbabwéenne, le général Constantino Chiwenga, a dénoncé ce lundi après-midi l'éviction du vice-président du pays, Emmerson Mnangagwa, et réclamé en même temps la fin de ce qu'il qualifie de purge au sein du parti présidentiel ZANU-PF, prévenant que l'armée du pays pourrait intervenir. Déclaration faite au cours d'une conférence de presse au quartier général de l'armée du pays, en présence d'environ 90 aux responsables de l'armée. Mnangagwa, longtemps pressenti comme impossible dauphin du président actuel Robert Mugabe, dont il est l'un des anciens fidèles, a été démis de ses fonctions récemment de vice-président de la République la semaine dernière après un bras de fer avec la première dame, Grace Mugabe, qui se trouve être en position idéale pour succéder à son époux âgé de 93 ans aujourd'hui. Mnangagwa, qui a reçu le soutien des anciens combattants de la guerre d'indépendance, entretient désormais des liens étroits avec les militaires. Et puis, sachez que les dirigeants africains ont appelé ce lundi à aider leurs États à assurer leur propre sécurité à l'ouverture de la 4e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La réponse militaire doit être solidaire et globale pour ne laisser aucun sanctuaire au groupe terroriste, a déclaré le président sénégalais Macky Sall. C'était en présence de ses homologues rwandais Paul Kagame et malien Ibrahim Boubacar Keïta et la ministre française des armées, Florence Parly, a salué en même temps la mémoire des victimes des attentats survenus le 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et dans sa banlieue.